C'est le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous, la guerre aux portes de l'Europe. Vladimir Poutine ordonne à son armée d'entrer dans les territoires pro-russes d'Ukraine, inadmissible pour l'ONU, dont le Conseil de sécurité s'est réuni cette nuit en urgence à New York. Dernière ligne droite pour la chasse aux signatures pour les candidats potentiels à la présidentielle. Nous avons suivi des militants du Rassemblement national qui travaillent à temps plein pour décrocher le précieux sésame. L'infertilité, un sujet tabou qui concerne plus de 3 millions de Français. Un rapport a été remis au ministre de la Santé et de la Famille. Et puis le passage de la flamme olympique, trop cher pour certains départements, 150 000 euros. Beaucoup préfèrent renoncer à la flamme de Paris 2024.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. J'ai nommé Christophe Castaner.
France Inter. Ils ont des rêves, des projets, des combats, des luttes. 100 jeunes face aux candidats à la présidentielle. Journée spéciale sur France Inter. Tout au long de ce mardi, 7 candidats à la présidentielle vont débattre avec ces jeunes venus de toute la France rurale en particulier. Une rencontre organisée avec l'association Chemin d'Avenir. Ainsi, Fabien Roussel, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen vont se suivre dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour ce grand oral face à une jeunesse qui bat le record de l'abstention aux élections. Thomas Giraudeau a rencontré 3 de ces jeunes qui savent déjà sur quoi ils vont interpeller les candidats.
Après son bac, Mathéo va partir loin de chez lui, quitter le Forez à côté de Saint-Étienne pour Paris. Il vise Sciences Po et dans son lycée, il est un des seuls à avoir de telles ambitions. Alors Mathéo voudrait parler
de l'égalité des chances. J'ai grandi dans un territoire rural, en étant dans certains milieux sociaux, toujours plus difficile de pouvoir accéder à certaines carrières. C'est ça le sujet sur lequel j'aimerais que les candidats à la présidentielle s'engagent.
S'engager pour que chaque jeune puisse faire ses études où il veut et peut. Après sa licence à Clermont, Marie est venue à Paris faire son master dans une école privée. Les facs manquent de place.
Quand on sort de licence, qu'on a déjà fait 3 ans et qu'au final on se retrouve à soit ne pas avoir de place du tout, soit avoir des places à l'autre bout de la France, mais comment on fait pour se déplacer? Ce genre de thématique n'est très peu abordée et c'est ce qui est notre actualité à nous en fait.
Au-delà de ses études, Cordélia, en prépa littéraire, se projette plus loin dans le monde du travail. Elle s'inquiète des inégalités salariales entre femmes et hommes et veut entendre les candidats sur le sujet.
J'ai vraiment pas envie que sur un poste à responsabilité, je ne toucherai peut-être pas le même salaire que l'homme qui sera assis à côté de moi au même poste. Je vais pouvoir récolter au même titre que les autres le fruit de ce que je fais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on s'en occupe plus.
Et elle ajoute à l'attention des postulants à l'Élysée, même à notre âge, nos voix comptent. Ils seront plus de 6 millions âgés de 18 à 25 ans à pouvoir voter en avril prochain.
Thomas Giraudeau, des candidats et des jeunes à suivre dès 9h30 ce matin sur franceinter.fr et sur chemindavenir.fr et sur la chaîne YouTube de France Inter. Il reste 6 jours ouvrables aux élus pour envoyer leur parrainage aux candidats de l'élection présidentielle. Le vendredi 4 mars, les prétendants à l'Élysée devront justifier de 500 signatures, mais plusieurs poids lourds des sondages manquent encore de ces précieux sésames. Éric Zemmour en a 291, Jean-Luc Mélenchon 370. Dans une vidéo postée hier sur son compte Twitter, la représentante du RN, Marine Le Pen, explique qu'il lui manque 50 parrainages. Un scandale démocratique majeur, dit-elle. Alors en Savoie, 6 militants travaillent à temps plein pour récolter ces signatures. On ratisse même au-delà de la région. C'est le reportage de François Ventéjou.
Cette militante savoyarde enchaîne les coups de fil au maire.
M'arrive d'appeler 250 personnes par jour. Je fais le maximum pour récupérer les parrainages pour le mouvement. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger.
Depuis Chambéry, Carole sollicite les élus, non pas de la Savoie ou de la Haute-Savoie, mais du Jura.
J'essaye d'avoir des rendez-vous pour Marie Dauchy.
Marie Dauchy, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, elle se prépare à partir une semaine au contact des élus jurassiens.
J'ai dû prendre une semaine de congé sans solde pour pouvoir me rendre dans le Jura. Il faut savoir que nos militants et nos délégués départementaux sont bénévoles, n'ont aucune rémunération, n'ont aucune indemnité. Et certains travaillent, ont des horaires qui sont absolument pas compatibles avec les horaires de la mairie. Par exemple, dans le Jura, le délégué départemental travaille tous les jours de 13h à 21h. Donc c'est pour ça aussi que je me rends dans le Jura pour pouvoir aider le département et surtout pouvoir aider notre présidente.
Le Jura, un territoire où Marine Le Pen n'a récolté que 3 parrainages, contre par exemple près de 30 pour Valérie Pécresse.
François Ventéjou de France Bleu, pays de Savoie.
France Inter, 7h34, Vladimir Poutine, Laurence, défie les Occidentaux.
Il a ordonné tard hier soir à ses troupes d'entrer dans les territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Louhansk, le Donbass, une région que la Russie contrôlait déjà de fait. Vladimir Poutine parle d'une force de maintien de la paix. Réaction immédiate de l'ONU qui a convoqué en urgence son Conseil de sécurité. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Laurence.
Vous êtes à New York, la quasi-totalité des membres du Conseil ont condamné cette décision du Kremlin.
Oui, absolument. Et après une courte mise en bouche, eh bien, ce sont les États-Unis et leur représentante Linda Thomas-Greenfield qui ont attaqué les premiers.
L'histoire nous enseigne que le fait de détourner le regard face à une telle agressivité serait la voie qui nous coûterait le plus cher. Poutine souhaiterait que le monde fasse un bond dans le passé, mais nous ne sommes plus en 1919.
Alors, les diplomates n'ont pas tous été si véhéments, mais la condamnation des actes du Kremlin n'en est pas moins quasi unanime. France, Grande-Bretagne, Kenya, Norvège, Inde, tous ou presque autour de la table ont dénoncé le comportement russe, tout en appelant parfois au dialogue avant que la ligne rouge d'une invasion ne soit franchie, comme ici le représentant français Nicolas de Rivière.
Nous poursuivrons ces efforts et nous appelons la Russie à mettre ses actes en cohérence avec ses paroles lorsqu'elle prétend être en faveur du dialogue et à revenir sur la décision de reconnaissance des entités séparatistes.
Et contre toute vraisemblance, Laurence, le représentant russe a répondu être ouvert à la diplomatie, mais nous ne permettrons pas, dit-il, un bain de sang dans le Donbass, scénario fictif brandi hier par Vladimir Poutine. En face, l'ambassadeur ukrainien, lui, est apparu acerbe contre la Russie, mais aussi contre l'impuissance du Conseil de sécurité. Quant à la Chine, enfin, très attendue, elle s'est bien gardée de condamner qui que ce soit.
Loïc Loury, merci, en direct de New York. Ce n'est pas encore le bain de sang, en effet, dans le Donbass, mais des tirs d'artillerie, des bombardements réguliers, de quoi effrayer les populations et toucher les infrastructures dites vitales. La chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, Florence Gielatsoudi, très inquiète. Les systèmes d'approvisionnement en eau sont déjà touchés très durement dans les régions de Donetsk et de Lugansk.
On a des dommages massifs sur les infrastructures qui servent à la survie des civils. Et ces dommages massifs, aujourd'hui, ont un impact déjà maintenant, où on a des centaines de milliers de gens qui ont déjà perdu l'accès à l'eau dans certaines zones, ou qui vont la perdre d'ici 3 jours. On est encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts, avec les compagnies d'eau, avec les compagnies d'électricité, avec les communautés, mais c'est déjà très inquiétant. On a de la chance, quelque part, dans ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, c'est que on est au mois de février, on a un mois de février extrêmement clément, mais il faut pas oublier qu'on peut encore avoir des températures qui descendent à moins 10 ou à moins 20 dans les semaines qui viennent. Vous imaginez qu'on ne peut pas vivre sans électricité et sans eau dans ces cas-là.
Florence Gillette, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, au téléphone de Julie Pietri. On l'apprend ce matin, une résidente d'un établissement pour seniors est morte dans un incendie hier soir à Roanne, dans la Loire. Un homme est grièvement brûlé, 2 autres personnes intoxiquées par les fumées. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine des flammes. À présent, ce problème de santé publique majeur, l'infertilité. Elle touche 3 300 000 personnes. Les causes sont multiples et les couples concernés de plus en plus nombreux. Pour la première fois, un état des lieux assorti de recommandations a été remis au ministre de la Santé et de la Famille. Une enquête coordonnée par le professeur Amama, spécialiste de la santé reproductive, et Salomé Berliou, l'auteur d'un ouvrage sur l'infertilité. Car lutter contre cette infertilité est une question de couple, mais aussi une question collective, Sophie Bécherel, parce que le devenir de l'humanité est en jeu.
Le sujet reste tabou, intime, douloureux, parfois connoté religieusement. L'infertilité n'est jamais exposée dans le débat public. Pourtant, d'après une enquête menée dans 195 pays en 2017, chaque année la fertilité féminine chute de 0,3% et chez les hommes c'est pire. La production de spermatozoïdes a dégringolé de 50% en 30 ans. La situation est alarmante, souligne le professeur Samir Amama.
On vous dit qu'il y a 1 couple sur 6 en âge de procréer qui a des soucis pour réaliser son projet parental. Mais si on prenait la femme qui a 30 ans, c'est 1 femme sur 4. Si on prenait une femme à 40 ans, c'est 1 femme sur 2.
Les causes peuvent être médicales, sociétales, c'est le cas pour les grossesses de plus en plus tardives, et de plus en plus souvent environnementales.
Dans les causes environnementales, c'est surtout les nanoparticules, la pollution, les perturbateurs endocriniens. Donc il y a au fait quelque part un effet cocktail.
Face à cette maladie, les auteurs de ce rapport plaident pour une stratégie de lutte nationale. Ce doit être une grande cause, le professeur Samir Amama.
Quand on dit que ça touche plus de 3,3 millions, ça touche l'espèce humaine dans sa globalité. Si on ne veut pas que l'être humain disparaisse dans 1 ou 2 siècles à venir, il faut s'en occuper dès maintenant, actualiser la formation des professionnels de santé, promouvoir la recherche et l'innovation. Et bien enfin, la mise en place d'une structure adéquate qui prend cette question à bras le corps.
Un peu à la manière de l'INCa, l'Institut aujourd'hui en charge du cancer.
Sophie Bécherel, déclarer sa flamme aux Jeux Olympiques coûte cher, car pour accueillir dans son département le passage du flambeau olympique, eh bien il faut débourser 150 000 euros. Le comité d'organisation de Paris 2024 se veut rassurant, mais la Creuse, la Haute-Vienne ou le Lot-et-Garonne refusent d'emblée le passage du symbole olympique sur leur territoire. Trop cher, Emma Sarango.
D'abord, ce montant de 150 000 euros n'a pas été fixé unilatéralement, précise le comité Paris 2024. Il a été discuté en assemblée des départements de France. Ensuite, ça n'est qu'une contribution, 30% environ du montant total du relais de la flamme assumé par le comité olympique. Enfin, il correspond à des frais réels et incompressibles, insiste Mickaël Aloisio, porte-parole de Paris 2024.
C'est un très très grand projet qui va aller dans beaucoup de territoires, donc des coûts de transport, des opérations, des véhicules, de l'hébergement, des repas. C'est une sorte de quote-part pour contribuer à l'équilibre général du projet.
Et à ceux qui demandent un montant proportionnel à la taille du département, Mickaël Aloisio répond « Pourquoi pas, mais avec quels critères ?»
Certains vont mettre en avant leur budget, d'autres la superficie du département, d'autres le nombre d'habitants. Et on a plutôt imaginé un montant forfaitaire qui reste accessible au plus grand nombre.
D'autant que cette contribution n'est pas sans contrepartie pour les départements.
Pour la première fois, il vaut co-construire le parcours avec nous. Ensuite, ils auront la possibilité de mettre en lumière un site iconique. Après, on a conscience que les départements sont libres de choisir d'accueillir la flamme ou pas. Il y a d'autres possibilités de s'engager.
Les candidatures pour le relais de la flamme seront closes début mars et son parcours dévoilé en 2023.
Emma Sarango.
Merci Laurence Thomas. 7h41, l'édito politique à suivre.